Edition from NPR News.
Let me teach some people how to see.
France Inter, le 18-20.
Le Qatar est-il devenu l'intermédiaire indispensable, celui qui parle à tous ceux à qui on ne veut pas parler, et au fond, sans doute que cela nous arrange bien avec les talibans, le Qatar étant première ligne depuis longtemps, de plus en plus, une pierre de plus peut-être pour ce petit pays qui entend peser par la diplomatie autant que par le football. Est-ce qu'il y parvient? On y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est en Suisse, à bord d'un avion 100% solaire. Vous me direz, c'est pas le premier, oui. Mais celui-ci entend aller bien plus haut que ses prédécesseurs, il vise la stratosphère. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logini a trouvé des manifestants anti-bitcoin à San Salvador, un pape en Hongrie et une jeune romancière qui bat tous les records en Grande-Bretagne. 18h50, le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier et un documentaire qui raconte Raqqa en Syrie après Daesh. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Fourré, le Maroc en panne sociale, en panne diplomatique et qui vote aujourd'hui. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir David Régoulet-Rose.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Vous êtes spécialiste de la région du Moyen-Orient, plus particulièrement de la péninsule arabique. Je vous salue, Christian Chéneau également. Bonsoir Christian.
Bonsoir Fabienne.
Grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Et ces coins-là, si je puis dire, vous les avez sillonnés plus d'une fois. David Régoulet-Rose, on sait bien que le Qatar a renforcé donc depuis longtemps ses positions diplomatiques et on va y revenir. Comment ce pays quand même s'est-il retrouvé au centre des négociations autour des talibans depuis Doha avec Trump, maintenant aussi? Alors effectivement, ça date pas d'hier. Mais à quel moment il se retrouve devenu indispensable et au milieu du jeu?
Il y a eu un passage à vide avec la mise au banc en 2017 par les autres membres du CCG, mais effectivement, concernant les talibans...
Donc les voisins, en fait, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, l'Arabie Saoudite, les Émirats...
Les Émirats, qui avaient mis un blocus sur le Qatar. Donc il y a eu un passage à vide, mais il a fait preuve d'une grande résilience. Et effectivement, aujourd'hui, Doha, c'est un peu the place to be. Tout le monde s'y rend, parce que le Qatar a su se rendre indispensable vis-à-vis des Occidentaux notamment, des Américains en particulier. Et c'est pas nouveau, parce que il y a un bureau politique des talibans qui a été ouvert en 2013 et que des négociations plus ou moins secrètes ont débuté dès 2018 à la demande des Américains d'ailleurs. Donc le Qatar effectivement est devenu indispensable pour servir de courroie de transmission pour ces négociations qui ont donné lieu à un accord. Justement, l'accord dit de Doha en fin février 2020.
J'allais vous demander, oui, vous y avez partiellement répondu, à l'initiative de qui? C'est-à-dire, même depuis 2013, lorsque le bureau s'ouvre, est-ce que ce sont les Américains? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même une très très grande base américaine au Qatar. C'est pas comme si c'était des inconnus, les Américains, les Qataris. Mais qui décide en 2013 qu'il faut ouvrir cette porte-là, Christian Chéneau?
C'est les Américains qui suggèrent aux Qatariens. En tout cas, ça se fait en bonne intelligence. C'est-à-dire que c'est pas le Qatar de sa propre volonté qui va dire on va parler aux talibans. Alors c'est vrai que les Qatariens, les Saoudiens et les Émiriens étaient déjà en relation avec les talibans quand ils étaient au pouvoir dans les années 90, mais c'est vrai qu'il y a une coordination, il y a une sous-traitance du dossier diplomatique des Américains aux Qatariens pour ouvrir ce canal de discussion, donc 2013. Et ce qui est intéressant avec le Qatar, c'est qu'effectivement c'est un pays, vous l'avez dit, qui parle avec des gens qui sont parfois infréquentables, qu'on n'a pas envie de parler. On cite les talibans, mais il y a aussi le Hamas qui a son bureau politique au Qatar. On sait que la bande de Gaza vit sous perfusion financière du Qatar.
On sait que ce sont des valises de billets même qui circulent entre le Qatar et la bande de Gaza. Pendant toute cette période, on va y revenir bien sûr, s'agissant des talibans, pendant toute la période 96-2001, donc la première période talibane, le Qatar a été bien silencieux, contrairement d'ailleurs aux Émirats à côté, contrairement à l'Arabie Saoudite. Pourquoi?
Oui, absolument. D'ailleurs, il faut rappeler que les trois pays qui avaient reconnu les talibans, le premier régime talibans à partir de 96, c'était l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Pakistan. Donc le Qatar n'était pas partie prenante à l'époque. Il l'est devenu parce que effectivement il sert de plateforme, de hub diplomatique avec des ambitions il veut se faire reconnaître comme un partenaire indispensable, se substituer un peu à Mascate qui traditionnellement à Oman est fait figure plutôt de Genève du Golfe. Et donc là il y a des ambitions effectivement qataris qui sont très nettes. Ils se sont engagé avec les talibans avec l'idée qu'ils se faisaient fort d'assurer une forme de normalisation des talibans avec un gouvernement inclusif. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, c'est pas franchement couronné de succès au regard des premières nominations du gouvernement en question.
Ça veut dire qu'ils abritent, mais vraisemblablement, il n'y a pas de ficelles qui sont tirées, ou en tout cas très mal tirées, si on en croit l'état du gouvernement, effectivement, comme vous le disiez, David Régulérez.
Oui, il y a un rôle technique, hein, on l'a vu sur le pont aérien. Le Qatar a exfiltré quasiment 40% des 115 000 réfugiés afghans. C'est Qatar Airways qui après les a dispatchés dans le monde entier. Donc il y a ce rôle technique. On sait qu'en ce moment, il y a une délégation du Qatar, une délégation technique sur l'aéroport de Kaboul pour essayer de le remettre en route, pour refaire redémarrer le transport aérien. Alors évidemment, il y a ce rôle technique et puis il y a ce rôle diplomatique où Doha devient la place diplomatique où les contacts se font, parce qu'il faut bien parler aux talibans et effectivement Doha est l'endroit privilégié avec les Américains mais aussi les Français, enfin toute l'ONU hein, qui cherche aussi à revenir sur l'aide humanitaire hein, et donc tout passe par le Qatar. Alors c'est pas forcément eux qui ont la main et qui sont responsables de tout, mais en tout cas tout passe par eux.
Ils fournissent la table, ils fournissent pas forcément les négociations qui se passent autour, si je vous entends
alors
bien.
C'est le problème, parce qu'en plus il y a d'autres acteurs comme le Pakistan, mais il y a une déclaration là de la vice-ministre des Affaires étrangères qui est porte-parole aussi de qui disait Lolwa Al-Qaiter, qui disait ne tuez pas le messager. Elle vient de faire une déclaration justement sur à l'AFP. Nous avons agi en facilitateur. Donc c'est vraiment la posture que le Qatar veut incarner, c'est-à-dire effectivement l'honnête broker, l'honnête courtier qui facilitera justement les relations entre des interlocuteurs compliqués.
Et c'est peut-être aussi une manière d'essayer de casser l'image qui était la leur précédemment. Je pense par exemple pendant la révolution arabe où ils ont été, après les révolutions arabes plutôt, où le Qatar a plutôt été accusé là pour le coup de souffler sur les braises plus que d'essayer de pacifier la situation.
C'est-à-dire que là le Qatar reprend son rôle avant les révolutions arabes. On se souvient la crise libanaise en 2008, c'est le Qatar qui joue les intermédiaires. La crise interpalestinienne, ce sont les Qatariens qui aussi jouent les intermédiaires. Le Darfour, le Soudan. Et c'est vrai qu'avec les révolutions arabe, le Qatar va être un acteur, va s'ingérer dans les dossiers régionaux et va perdre en crédibilité. Et justement, va perdre cette capacité de médiation, d'être un peu à mi-distance avec tous les protagonistes. Et là, on s'aperçoit qu'en ce moment, avec la fin du blocus de ses voisins, cette affaire afghane, eh bien le Qatar finalement reprend des ailes, reprend une visibilité qui lui avait fait un petit peu défaut ces dernières années.
L'ambition, David Régulérez, c'est d'être aussi influent, au fond, aussi puissant, ou de faire jeu égal avec ceux qui tirent les ficelles en ce moment dans cette région. Mais on pense aux Iraniens, on pense aux Russes, on peut même penser aux Chinois. Est-ce que l'ambition, c'est d'être à cette table-là pour les Qataris?
Pas en tant qu'acteur déterminant, mais en tant qu'intermédiaire. Facilitateur, oui, ça incontestablement, avec l'idée de servir, enfin de faire office de Genève, hein, de la région, pour réunir tout le monde, même si ils savent quand même qu'ils ont des moyens qui sont pas évidemment les mêmes que les grands acteurs que vous mentionniez, à savoir le Pakistan, Iran, etc. Mais c'est éventuellement pour les mettre autour d'une table et faire être un maître de cérémonie d'une certaine manière pour faciliter des convergences.
Mais est-ce qu'on les croit aussi? C'est-à-dire notamment, on parlait tout à l'heure des valises de billets qui se promènent entre le Qatar et Gaza. Par exemple, j'ai cru comprendre que ça avait été repris en main par l'ONU d'ailleurs, parce que tellement c'était un peu le brouillard là derrière. Donc, est-ce qu'on croit à cette envie d'être facilitateur de la part du Qatar, qui est en train de jouer son soft power aussi? On va y venir. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses à y gagner, mais est-ce qu'on les croit sur parole?
En tout cas, ça semble être le cas, puisque Anthony Blinken a exprimé sa profonde gratitude. Même le président Macron, qui a parfois été très critique vis-à-vis du Qatar en d'autres temps, lors de sa rencontre à Bagdad avec l'émir Tamim, justement, l'a remercié pour l'aide, pour l'évacuation justement de nombreux Afghans transitant par Doha.
Oui, parce que le problème, c'est pas de croire ou pas croire, c'est qu'ils sont indispensables. Oui. Il y a personne d'autre. Qui peut faire ce rôle d'intermédiation? Encore une fois, ce bureau taliban a été créé en 2013. Il y a une histoire, il y a un process. Les Américains ont mené des négociations secrètes là-bas. Donc là, évidemment, le Qatar est indispensable et utile, et il essaie de monnayer ce rôle. Encore une fois, après des années, j'allais dire, au purgatoire, avec ils étaient encerclés par leurs voisins.
Alors, quelles sont les relations désormais avec les voisins, d'ailleurs, ceux qui ont levé effectivement l'embargo à partir de 2020, les Émirats et l'Arabie Saoudite,
et le Bahreïn.
On va dire que c'est une réconciliation de façade qui a eu lieu, qui a été officialisée à Al Ula, dans la fameuse sur la mer Rouge, en Arabie Saoudite, à l'invitation de Mohamed bin Salman, parce que c'était une impasse.
Donc de l'Arabie Saoudite.
De l'Arabie Saoudite, parce que le blocus était une impasse, et donc effectivement, ça hypothéquait aussi un front uni déni du CCG vis-à-vis de l'Iran. Ça a joué beaucoup. Donc l'idée, c'était de réintégrer le Qatar dans le giron du CCG, mais sans se faire beaucoup d'illusions, parce que le passif est lourd et le contentieux n'est pas apuré.
Et est-ce que les succès diplomatiques du Qatar, du coup, c'est vécu quoi comme un affront par l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il y a une pointe de jalousie? Est-ce que comment ce nouveau statut du Qatar est vécu par les voisins immédiats?
Je pense qu'il y a un peu une répartition des rôles. Hein, et c'est vrai que les Saoudiens sont une position un peu difficile avec MBS, hein, qui porte quand même sur lui le crime de Khashoggi. Hein, il n'est pas encore complètement réintégré. Les Américains ne le parlent plus. Hein, parlent à son père, le roi Salman. Les Émiriens sont un peu isolés. Donc le Qatar, finalement, c'est...
Et c'est pour ça que je pose la question, pardon Christian, parce qu'on a l'impression que du côté de l'Arabie Saoudite, toutes les tentatives d'ouverture, de soft power, etc., tout ça a complètement échoué. En fait, il s'est cassé la figure à très multiples reprises, Mohamed Ben Salman, alors que pour l'instant, du côté du Qatar, on a plutôt le vent en poupe.
Il y a eu l'affaire Khashoggi, qui a pesé très lourd. Et donc, du coup, il y a un retour en grâce du Qatar. Il faut rappeler que, effectivement, sous l'administration Trump, il avait été stigmatisé par un tweet incendiaire, d'ailleurs, du président de l'époque. Mais depuis, le temps a fait son œuvre et c'est un État qui sait se rendre indispensable.
Est-ce que ça veut dire que tout le reste, du coup, parce qu'on en a effectivement besoin, vous le disiez, parce que c'est un État qui sait se rendre indispensable, est-ce que ça veut dire que tout le reste, passez-moi l'expression, passe crème? Et on se souvient des critiques qui ont été apportées sur la construction des stades pour la Coupe du Monde, sur la manière dont sont traités les gens qui construisaient ces stades, sur toutes ces choses-là. Donc, est-ce que, alors bien sûr, on a vu quelques avancées ici et là, mais est-ce que au fond la réponse des Qataris, c'est pas attendez, vous êtes gentils, mais laissez-nous faire, parce que de l'autre côté, de toute façon, vous avez tellement besoin de nous que vous pourrez pas nous fermer la porte intégralement.
Oui, mais enfin, ils savent aussi que leur politique a des limites. Hein. Ils peuvent pas tout faire. Ils en sont conscients. Simplement, ils veulent capitaliser sur ce qu'ils savent faire. Et leur soft power, de ce point de vue-là, leur culture de soft power aide beaucoup.
Sur la Coupe du Monde de foot notamment, est-ce que réellement il y a des choses qui ont été comprises, il y a des choses qui ont été changées, il y a des choses qui ont été faites? Est-ce qu'on essaye de montrer au Qatar qu'on fait ce genre d'efforts ou pas?
Oui, notamment sur il y a des efforts qui sont faits, parce qu'il y a un problème de visibilité qui est très important, notamment sur le statut des travailleurs.
Ah oui.
Le problème du kefala, c'est-à-dire la tutelle en fait d'un national sur ceux qui arrivent, avec des droits, on va dire, pour les travailleurs qui sont un peu plus reconnu qu'il ne l'était, puisqu'il n'y en avait quasiment pas initialement. Donc il y a des efforts qui sont faits, parce qu'ils savent que tout le monde va être fixé sur le mondial, et qu'il y a eu évidemment des interrogations sur l'attribution en plus mondial. Donc ils sont obligés de faire un certain nombre d'efforts.
Mais c'est pas vraiment un moyen de pression aussi, Christian?
C'est un peu deux choses différentes. C'est-à-dire que ce volet diplomatique, où le Qatar s'est aussi brûlé les ailes, il s'est brûlé les ailes en Syrie, il s'est brûlé les ailes en Libye, l'alliance avec Erdogan pose aussi problème. C'est vrai que là, pour l'émir Tamim, cet éclaircissement de l'horizon diplomatique tombe à point nommé, parce que dans un an, c'est la Coupe du Monde, il faut la réussir, c'est vraiment le chantier, ça doit être l'apothéose de son règne. Alors évidemment, il y a eu quelques efforts sur les travailleurs, par exemple, ils sont plus payés en liquide, on les paye avec un compte en banque.
On leur confisque le passeport, ça paraît tellement hallucinant.
Il y a quelques améliorations, mais c'est vrai que ça va rester un talon d'Achille. Il y a une campagne de boycott, hein, les Suédois, il y a une équipe suédoise qui devait aller cet hiver à Doha, qui a dit on n'y va pas, la Norvège voulait boycotter. Ils vont pas le faire. Mais c'est vrai que pour Tamim, vraiment le chantier, c'est de réussir cette Coupe du Monde dans un an.
On n'a toujours pas rendu le public le nombre de décès, par exemple, contrairement à ce que réclamait Human Rights Watch, le nombre de décès dus à la Coupe du Monde, etc. Il y a quand même encore des sacrés trous dans la raquette.
Il y a des zones d'ombre, incontestablement. D'ailleurs, c'est pour ça que les associations, dont celle que vous évoquiez, effectivement, mettent la pression, parce que c'est un moyen aussi de... Il y a une logique transactionnelle vis-à-vis de Doha, pour améliorer les choses, même si de toute façon ça peut pas être parfait.
Il y a une manière d'essayer de se refaire une virginité d'une certaine façon, David Rigoli-Rose, ou pas, de la part du Qatar. Je vous pose la question parce que on a l'impression que il y a tellement de choses qui ont été totalement remises à plat, notamment après ce que racontait Christian Chesneau à l'instant. Donc est-ce que c'est ça aussi le but? De toute façon, on repart de zéro, le reset bouton, comme on le disait à l'époque, entre les Russes et les Américains, par exemple. exemple.
Ils ont revu leurs ambitions géopolitiques à la baisse.
Ouais.
C'est-à-dire, ils savent qu'ils peuvent pas être l'acteur qu'ils prétendaient être pour être déterminant dans une évolution. Et on pense au printemps arabe, justement. Mm-hmm. Ils ont voulu faire une OPA sur l'islam politique à l'époque. Ils savent que c'est trop dangereux maintenant. Et donc, ils vont se cantonner en capitalisant sur, effectivement, ce statut de hub diplomatique permettant de faire parler tout le monde sur des questions difficiles.
Et puis, il ne faut pas oublier que le Qatar, c'est quand même un pays, c'est un coffre-fort. Hein. Mm-hmm. Je regardais les chiffres de leur fonds d'investissement. C'est quand même 366 milliards de dollars au 1er juillet 2021.
Pour 300 000 habitants.
Hein. C'est-à-dire qu'ils ont encore du cash pour arroser, faire de la diplomatie transactionnelle. Donc c'est un pays, encore une fois, c'est 300 000 habitants, c'est une rue de Bagdad ou du Caire, et avec un coffre-fort immense. Donc certes, ils ont pris des coups sur la tête avec ce blocus, avec les printemps arabes, mais il reste quand même un pays incontournable.
Allez-y, pardon, je vous voyais réagir à ce que
disait Christian. Non, mais effectivement, c'est un pactole qui est très utile dans certaines configurations, mais c'est à ce moment-là, c'est des logiques d'intervention plus individualisées, plus ciblées. Mm. Mais effectivement, par rapport à ce qu'ils ont pu avoir comme ambition, j'allais dire d'envergure, les choses ont été quand même revues à la baisse.
Ce sera la dernière question. Quand on regarde les voisins, notamment d'Arabie Saoudite, on sent bien qu'il y a, alors, on n'est pas dans la même taille, hein, j'ai bien compris, il y a une espèce de volonté de monter qu'on est en train d'imaginer un après-pétrole, qu'on a compris un certain nombre de choses, on parle écologie, on parle champ éolien, de panneaux photovoltaïques, pardon, etc. Au Qatar, on a l'impression que là, pour le coup, c'est pas du tout la question. Et là-dessus, c'est pas en tout cas un levier qu'on agite, si.
En tout cas, eux, ils ont été très tôt dans cette anticipation de l'après-hydrocarbure. Ils ont pris de l'avance par rapport à l'Arabie Saoudite, etc. D'abord, ils sont plus sur le pétrole,
ils sont sur le gaz,
et donc là aussi ils peuvent capitaliser sur quelque chose de très forte valeur ajoutée, beaucoup moins dépendant finalement des cours que les cours du brut, et ça les aide.
Merci beaucoup. À suivre, j'allais dire, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, et d'y revenir sûrement très vite, en parlant des talibans, de l'Afghanistan et d'autres choses aussi. Je vous remercie beaucoup, David Rigoulet-Rose. Merci à vous aussi, Christian Chesneau.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est en Suisse et c'est en avion, mais pas n'importe quel avion, un avion 100% solaire qui a pour ambition d'aller jusqu'à la stratosphère et au-delà. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars. Sébastien Legénie.
Le Salvador, pays cobaye pour tester le bitcoin comme monnaie légale.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir, ce sera un documentaire autour d'une jeune femme de 30 ans devenue icône politique à Raqqa.
Le monde d'après, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Maroc vote aujourd'hui et derrière la devanture policée, il y a beaucoup de fissures sociales, économiques, diplomatiques.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il fait un petit tour par les États-Unis et Denver, Colorado même. Raphaël Ratliff, Survivor, c'est dans la playlist de France Inter. Well, you just think that I'm some great survivor. And you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we call to find our way, we even take the shape of something else. Oh, Le bruit du monde ce soir est en Suisse et justement ne fait pas de bruit, ou presque. Je vous emmène dans un tout petit avion, celui de Raphaël Donjean, qui est loin d'être un milliardaire, loin d'être un Jeff Bezos ou un Richard Branson. Et lui aussi, mais lui aussi rêve de voyager dans l'espace. Sauf que son rêve, lui, c'est de le faire avec un petit avion 100% solaire. Mais oui, Solar Stratos, c'est le nom de l'appareil. Il est en pleine phase de test à Payerne, c'est en Suisse. Et le reste, c'est Jérémy Lange qui raconte.
A human dream. Powered by solar energy. To the edge of space.
Une musique de film d'action, des paysages à couper le souffle, un homme en combinaison d'astronaute seul aux commandes d'un avion futuriste. La vidéo de promotion de Solar Stratos reprend tous les codes de la superproduction hollywoodienne. La vérité, c'est que l'avion n'a rien de révolutionnaire. Roland Laus est le président de Solar Stratos.
C'est un grand planeur, il a une envergure de 25 mètres, deux moteurs 19 kW maximum. C'est la même puissance qu'une voiture électrique d'aujourd'hui, nos cellules solaires. C'est des cellules qu'on peut acheter pour mettre sur le toit de sa maison, par exemple. Alors, fondamentalement, on ne développe pas de la technologie spatiale pour notre projet. On utilise ce qui est à disposition en prenant le meilleur de ce qui existe.
Pas révolutionnaire, mais inédit quand même. Faire voler un avion solaire, d'autres l'ont déjà fait. Et depuis le même aérodrome, André Borschberg et Bertrand Piccard avec leur avion Solar Impulse, oui, mais eux volaient à une altitude proche de celle des avions de ligne. Pour piloter Solar Stratos, il faut plutôt se préparer comme si on allait dans l'espace.
C'est préparer un avion pour aller à des altitudes où on a très très peu d'expérience. Il y a quelques avions militaires qui volent à des altitudes comme ça. Il y a des fusées qui traversent ces altitudes, mais se déplacer en vol stabilisé à ces altitudes-là, ben ça, il n'y a rien d'autre qui existe. Le pilote ne peut pas survivre sans être protégé avec de l'oxygène qu'il respire. Typiquement, Thomas Pesquet, qui est à la station spatiale actuellement, il portait exactement la même combinaison à son décollage que celle que nous, on va utiliser pour les vols à haute altitude.
Le Thomas Pesquet de Solar Stratos, c'est lui, Raphaël Donjean. Cet aventurier dans l'âme a déjà à son actif le premier tour du monde dans un bateau solaire et une tentative de traverser de l'Arctique dans un kayak, lui aussi solaire. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois seulement qu'il va piloter Solar Stratos sans copilote, sous les yeux remplis d'admiration de ses parents.
On voit pas, hein, tellement de fin, ça.
Après, on a peine à le voir.
On va le deviner, hein.
Ah oui, je vois maintenant. C'est incroyable. Il est déjà en l'air.
On va le voir.
Waouh. Il est beau comme ça, hein.
C'est extraordinaire, non? Ça, c'est l'avenir.
Décollage presque sans bruit et sans encombre, malgré l'orage qu'on entend au loin sur les contreforts du Jura. Agnès et Daniel le concèdent volontiers. Ils préfèrent voir leur fils la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre.
Ça se mélange. La fierté, on est content. Surtout content qu'il réalise un rêve. C'est son rêve, ça. Et puis, un petit peu inquiet, parce que chaque pas, chaque étape, ben, y a un petit risque.
Il m'a dit, tu sais, maman, avec moi, te fais pas de soucis. Je suis froussard, je prends pas de risques. J'ai dit, j'espère, fiston.
Clair pour l'Indre, Noé, tout de suite sur la Stratos.
And Rafael, we're having zero kilometers an hour here for wind, just so you know.
Okay, wind is calm, Miguel. Thank you. I am now on final runway to Tripoli, fine.
Après une vingtaine de minutes en l'air, l'avion entame sa phase d'approche. L'atterrissage se fait en douceur. Mission réussie pour Raphaël Donjean, même s'il sait que le plus dur reste à venir pour atteindre la stratosphère, si tout va bien, en 2023.
C'est compliqué de faire voler un avion solaire, on est à la limite partout. Hein, donc si vous voulez, plus vous êtes léger, puis plus c'est compliqué d'aller en altitude, parce qu'il y a des primes aérodynamiques, puis plus vous le faites lourd, et puis plus vous faut d'énergie. Donc vous voyez, on est face à des contraintes qui sont extrêmement complexes. Et le chemin pour la stratosphère, il est extrêmement étroit, puis il faut réussir à trouver ce chemin. On est très concentré, on n'est pas là pour faire un vol pour se faire plaisir. Hein. Réaliser le rêve d'Icar, ça fait 4000 ans qu'il attend, donc faut qu'on réussisse aujourd'hui.
Car celui qui se définit comme un éco-explorateur ne veut pas réduire son aventure à un exploit juste bon à figurer dans le Guinness Book des records. Non, Solar Stratos, c'est un défi technique, humain, mais surtout
environnementale.
Ce projet, je pense comme Solar Impulse, comme Planète Solar, ma première aventure où je suis parti en bateau solaire autour du monde, c'est vraiment un message d'optimisme pour la société civile, voyez, parce que si les jeunes d'aujourd'hui ne voient pas les solutions pour demain, ils ne vont pas adhérer à ce changement. L'énergie solaire, l'électrification de notre société, elle va nous permettre de faire ce qu'on fait aujourd'hui tout en préservant notre climat et notre environnement.
Our planet. So fragile.
Ma crainte, c'est pas d'avoir un problème en vol avec Solar Stratos. Ma crainte, c'est que notre société n'arrive pas à faire ce virage des énergies renouvelables. Parce que je pense que le risque pour notre société, il est beaucoup plus gros que le risque que je prends à voler dans cet avion, même dans la stratosphère.
Join us. Yes.
Maintes fois annoncé comme imminent, le règne de l'avion vert tarde encore à se concrétiser, même si on estime à plus de 200 le nombre de projets d'avions électriques en cours de développement.
Un peu de patience, mais on y arrive finalement. Yes!
Un peu de patience avec l'accent suisse, c'est encore plus long. Merci beaucoup Jérémy Lanche, merci de votre passage dans Un jour dans le monde. Le bruit du monde, comme l'avion solaire, passe parfois sous les radars, mais Sébastien Legénie est là pour veiller. Les rues de San Salvador, Sébastien, la capitale du Salvador, investie par des manifestants anti-Bitcoin.
Oui, la célèbre crypto-monnaie agite ce petit pays d'Amérique centrale depuis des mois, depuis que le très populaire président salvadorien s'est mis en tête de faire du Bitcoin une monnaie légale dans son pays. C'est officiel depuis hier, le Salvador, premier pays au monde donc à pouvoir utiliser cette monnaie virtuelle dans les échanges de tous les jours. L'argument des autorités, c'est que les Salvadoriens devraient faire des économies, économiser notamment les frais bancaires quand ils enverront de l'argent à leur famille à l'étranger. Et pour que cela fonctionne, chacun est appelé à télécharger un porte-monnaie électronique. Certains ont même déjà pu acheter des pizzas hier avec des bitcoins. Mais globalement, cette initiative est plutôt mal accueillie. Selon les derniers sondages, les deux tiers des 6 millions d'habitants du Salvador ne veulent pas de la crypto-monnaie. Pour cette vendeuse de légumes sur un marché qu'on entend derrière nous, pas question d'échanger avec des bitcoins, je vendrai toujours en dollars, dit-elle, et on me donnera des dollars. Cet autre Salvadorien, lui, manifeste depuis une semaine avec les syndicats. Le Salvador est un cobaye, dit-il. Nous sommes une expérience monétaire qui va toucher les plus pauvres, les moins protégés. Personne ne connaît cette crypto-monnaie, personne ne la comprend, personne ne sait comment ça va fonctionner, conclut-il. La population n'est pas la seule à être réticente. Le scepticisme est total du côté des économistes, de la Banque mondiale et même du Fonds monétaire international. Le bitcoin, disent-ils, est trop volatile, trop dangereux, avec un risque d'impact négatif sur les prix des biens et des services. La preuve, dès hier, Fabienne, le jour même de la légalisation du bitcoin au Salvador, la crypto-monnaie dont le cours était établi à plus de 52 000 dollars, a perdu près de 10% en bourse, une chute de 5 000 dollars en quelques minutes.
Allez, partons pour la Hongrie qui accueille le pape dans 4 jours.
Une visite très courte du souverain pontife, une demi-journée à peine pour une grande messe à Budapest avant de partir pour la Slovaquie voisine. Le pape François qui s'entretiendra malgré tout en tête-à-tête avec le premier ministre hongrois, j'ai nommé le très conservateur Viktor Orban. Orban qui se présente comme l'un des derniers défenseurs du christianisme européen et qui devrait faire valoir auprès du pape son bilan en matière scolaire. En effet, depuis des années, la Hongrie multiplie les conversions d'écoles publiques en écoles confessionnelles, catholiques notamment. Ces écoles avaient presque disparu sous l'ère soviétique, à peine 5% des établissements, mais aujourd'hui, elles représentent presque 20% des écoles hongroises. Catéchisme, crucifix, prière au menu des élèves de ces écoles privées, une recristianisation scolaire largement subventionnée par l'État hongrois. Un élève en école confessionnelle reçoit 4 fois plus d'argent qu'un élève dans le public et ça commence à se ressentir dans le choix des parents qui se détournent du public pour aller vers le privé. Résultat, les écoles privées sont de plus en plus élitistes, sélectives, avec de graves crises, de graves dérives à la clé. On entend là le maire d'une commune hongroise qui explique ainsi que les écoles confessionnelles changent régulièrement leurs conditions d'admission et surtout dans les campagnes où il y a un taux élevé de Roms. Beaucoup d'Hongrois choisissent donc maintenant une école confessionnelle, non pas pour des raisons de valeur ou de croyances religieuses, mais parce qu'ils veulent une école avec moins ou même sans enfants roms.
Les Britanniques se ruent dans les librairies depuis hier.
Pas pour acheter le dernier Harry Potter, ça c'est fini. Fabienne, non, la nouvelle coqueluche au Royaume-Uni, vous la connaissez sans doute depuis son premier roman Normal People. Elle s'appelle Sally Rooney et elle a donc sorti hier son troisième roman, Beautiful World, Where Are You ? Je traduis, Monde riant, où es-tu ?
Oui, merci.
Voilà, je vous en prie. Son premier roman Normal People s'est vendu, tenez-vous bien, à 3 millions d'exemplaires. Il a été adapté ensuite dans une série, autant dire que chaque nouvel opus de cette jeune Irlandaise de 30 ans est très, très attendu. On entend là l'autrice Sally Rooney, il y a deux ans, parler de son écriture et Sally Rooney qui se revendique comme marxiste et qui revendique donc une approche de la littérature où la question de la classe sociale, dit-elle, traverse tous ses personnages en attendant le grand soir. Et hier, en tout cas, c'est bien le capitalisme triomphant qui a porté la sortie de son dernier livre, des dizaines de librairies britanniques ouvertes aux aurores, comme pour la sortie d'une nouvelle console de jeu.
Voilà, ben, je ne sais pas si je dois avoir honte ou pas, je n'en ai jamais entendu parler de Sally Rooney. Et je me tourne vers Corinne Pellissier.
Oh, quand même, menteuse,
quelle menteuse, quelle menteuse. Allez, à demain, Sébastien. Vous partez en famille avec les mamas et les papas. California Dreaming. Le rêve californien des mamas and the papas sur France Inter. Allez, cinéma.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, c'est un documentaire qui avait fait la sensation lors du dernier prix Bayeux. Donc c'était l'année dernière, on avait d'ailleurs eu l'occasion d'en parler ici même. Dans Un jour dans le monde, un film qui sort enfin en salle et c'est tant mieux. Ça s'appelle 9 jours à Raqqa. C'est le premier volet d'une trilogie signée Xavier Delauzanne autour de la reconstruction des territoires après le départ de Daesh. Aujourd'hui donc direction la Syrie, à travers le portrait d'une jeune femme. Elle a 30 ans à peine, elle est devenue maire de Raqqa, l'ancien fief de l'État islamique entre 2013 et 2017.
C'est une jeune femme qui essaie modestement de reconstruire sa ville et de faire revivre la démocratie. Elle s'appelle Leyla Mustafa, elle a 30 ans, ingénieure en génie civil, kurde, musulmane, sunnite. Et c'est en binôme avec un homme qu'elle dirige depuis la fin 2017, la ville de Raqqa. On la découvre dans ce documentaire sur le terrain auprès de la population, souriante, en blouson de cuir noir, non voilée, affairée à un chantier qui s'annonce évidemment titanesque. 80% de la ville de Raqqa a été détruite en 10 années de guerre et 4 ans de califat. Ce qui veut dire plus de réseau électrique, quasiment plus d'accès à l'eau potable, plus d'écoles. Il a fallu évidemment beaucoup de détermination depuis le départ de Daesh pour revenir à Raqqa, s'affairer à cette reconstruction. Et grâce à Valérie Crova de la direction internationale de Radio France, eh bien, nous avons pu la rencontrer.
C'est une chose qu'on ne peut pas oublier. On est très traumatisés en tant que des gens de Raqqa, mais à distance, quand nous vivions, nous voyons tout ça, toutes les exactions de Daesh. On n'imaginait pas que nous allons vivre dans une telle situation. C'était très horrible. Bien sûr, on avait des sentiments très controversés. On avait une grande joie à la fois pour la libération de notre ville en collaboration avec la coalition internationale. Daesh, à l'époque, était fini militairement, mais on savait qu'il n'est pas fini complètement en tant qu'idéologie. De notre côté, on avait une grande responsabilité en tant que des habitants de Raqqa pour commencer la reconstruction et de dessiner l'avenir de cette ville ensemble et faire revenir les couleurs de Raqqa et la joie aux enfants. On avait devant nous beaucoup de défis pour que la ville de Raqqa devienne une vie de paix, de fraternité.
Et la tâche, Corinne, est d'autant plus ardue que la ville de Raqqa reste un lieu dangereux, avec des cellules dormantes de l'État islamique. On s'y déplace avec précaution. Pour Leyla, par exemple, c'est en voiture blindée et elle vit à 50 km de la ville chez ses parents.
Voilà, le danger est permanent. Le documentaire est construit un peu comme un road trip sur une période de 9 jours. On y suit une écrivaine qui s'appelle Marine de Tilly. Elle est venue interviewer Leyla dans l'optique d'écrire un livre sur elle. C'était en 2019. Elle n'a évidemment pas été déçue de la rencontre.
En Occident, on aime beaucoup, vous savez, créer comme ça des madones orientales. Je me méfie un petit peu de ça. Et donc, non seulement elle remplissait, j'allais dire, le contrat, mais elle l'a largement dépassé. Son combat n'est pas personnel parce qu'elle travaille, elle vit, elle respire, non seulement pour sa ville, mais pour son peuple et pour son pays. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement des Kurdes du nord-est de la Syrie, mais de tous les Syriens. Elle poursuit, si vous voulez, le chemin qu'avait commencé sur le terrain les forces démocratiques syriennes et qui rassemblait des Arabes, des Kurdes et des chrétiens dans une même armée contre Daesh. Elle a mené ce combat-là sur le plan politique et en même temps, c'est une femme qui va à l'université et c'est à elle qu'on confie la tâche de reconstruire sa ville parce qu'elle est ingénieure, mais aussi parce que c'est une femme et qu'elle est kurde. Mais le plus difficile étant de reconstruire les âmes, évidemment.
Alors, elle a ouvert la voie, mais Leyla est loin d'être la seule aujourd'hui à être dans cette situation. 10 000 femmes sont investies dans des administrations dans le nord du pays. Le film raconte aussi leur émancipation, avec en exergue beaucoup d'images d'archives, de repères, pour tout comprendre de la situation.
Sacrée jeune femme, en tout cas, Corinne Pellissier, merci beaucoup et à mercredi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, le Maroc vote aujourd'hui, élections législatives et locales, qui pourraient voir un repli du parti islamiste, le PJD, au pouvoir depuis une dizaine d'années. Mais pour vous, l'enjeu est ailleurs. La question est de savoir si le royaume du Maroc va demeurer l'îlot de stabilité et de croissance qui fait sa réputation. Les signes de fragilité, en tout cas, se multiplient et c'est votre monde d'après.
Oui, longtemps, les indicateurs sont restés au vert. Une croissance soutenue, des symboles montrés en exemple. Vous savez, le port de Tanger, le développement du numérique ou de l'énergie solaire. Autant d'arguments utilisés par le pouvoir marocain pour brosser un tableau presque idyllique. Mais aujourd'hui, pas besoin de gratter bien fort pour repérer les craquelures sous le vernis. Il y a d'abord la situation politique et sociale intérieure. Les inégalités se creusent. Le taux de pauvreté a presque décuplé en un an. Décuplé. L'économie s'est repliée de 7% sous l'effet de la pandémie. Et le tourisme, ressource majeure du pays, évidemment, est en chute libre, moins 65%. Le bilan économique du parti islamiste PJD paraît faible et la grogne sociale est bien présente. Ensuite, il y a le tour de vis sécuritaire. La pandémie est un bon alibi. là aussi pour maintenir le couvre-feu. Les libertés publiques sont restreintes. Les journalistes sont pris pour cible, poursuivis souvent pour des motifs fallacieux. Dès qu'ils émettent la moindre critique du régime, on songe à des cas emblématiques comme Omar Radi ou Souleymane Rassouni. Le Maroc est descendu au 136e rang du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Donc le climat social est à la désillusion, en particulier dans les villes moyennes. C'est pas encore de la colère, parce que la peur est là tout simplement, mais les fissures sont visibles dans l'édifice.
Et donc ça, c'est la situation à l'intérieur, et puis il y a l'extérieur aussi.
Oui, là aussi c'est pas terrible. Comme le Maroc reste obnubilé par la question du territoire du Sahara occidental à son extrême sud, il a en fait cédé l'an dernier à la pression de Donald Trump. Il est devenu le 4e pays arabe à reconnaître Israël, en espérant en retour une reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. 9 mois plus tard, le bilan n'est pas bon. Les relations diplomatiques avec son grand voisin l'Algérie sont rompues. Les deux pays sont en profond désaccord, on le sait, sur le Sahara occidental et en rivalité évidente sur le leadership régional. Et avec les pays européens, ce n'est guère mieux. La tension est évidente avec l'Espagne et l'Allemagne, qui se refusent à poursuivre, voire protègent les militants et dirigeants sahraouis. Et avec la France, c'est pas terrible non plus, surtout après les révélations de cet été sur le recours par le Maroc au logiciel espion Pegasus pour infiltrer les téléphones portables de plusieurs journalistes et dirigeants politiques français. Révélation, rappelons-le, notamment de la cellule d'investigation de Radio France. Pour couronner le tout, les États-Unis, qui sont donc désormais passés version Biden, n'ont finalement pas reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et critiquent désormais ouvertement les atteintes aux droits de l'homme dans le royaume. Donc là encore, sur le plan extérieur, il y a des fissures derrière la devanture de l'édifice.
Alors quand même, l'édifice, comme vous dites, il repose quand même sur un socle, et le socle, c'est le roi.
C'est vrai, mais là aussi, il y a des questions. Et de une, Mohamed VI, désormais âgé de 58 ans et au pouvoir depuis 22 ans, a dérivé vers une gouvernance autoritaire. On est loin des réformes des débuts, hein. Le nouveau code de la famille qui améliorait les droits des femmes, le retour d'exil de l'opposant Abraham Serfati, la réforme constitutionnelle censée rééquilibrer les pouvoirs après le mouvement dit du 20 février. Le pays reste aujourd'hui en fait un mirage de démocratie parlementaire, parce que quel que soit le parti arrivé en tête dans les urnes, il doit de toute façon faire allégeance au palais qui tire les ficelles. Et ça sera encore plus le cas cette fois-ci. Il y a une nouvelle réforme électorale qui va conduire probablement à un émiettement des forces politiques et le rôle du palais n'en sera que renforcé. Donc la démocratisation fait plutôt marche arrière et ça peut créer des tensions. Et puis de deux, la santé du roi interroge. Il a des soucis cardiaques, on le sait. Il sort désormais très peu du palais et lors de son discours du trône fin juillet, il est apparu pâle, émacié, fatigué, les mains crispées. C'est un enjeu majeur, autrement plus déterminant sans doute que de savoir qui des islamistes ou des libéraux sortira en tête du scrutin aujourd'hui. Alors, entendons-nous bien, la monarchie marocaine reste solide, la critiquer relève de toute façon du tabou et de l'interdit au Maroc, mais le pays est sans doute plus fragile qu'il ne veut le faire croire.
Jean-Marc Four, merci beaucoup, à demain. Jean-Marc, on reste ensemble, bien sûr, avec le téléphone sonne juste après le journal de 19h. Merci de passer la soirée avec nous, à tout de suite.